Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série Le retour du Christ qui implique l'évangélisation. Ceci est l'étude numéro 10 et notre thème pour aujourd'hui sera premièrement le diable et deuxièmement après la mort. Nous ne savons pas si nous arriverons au bout de cette longue étude, mais je l'espère. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Personne ne veut le croire qu'il y a un principe satanique qui régit tous les événements contemporains à l'insu des grands chefs qui s'imaginent diriger le monde. La Bible le décrit ainsi. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il agit en semant la confusion parmi tous les peuples et toutes les nations. Il est à l'œuvre absolument partout. Entrevoyons-nous une possibilité de paix pour le monde? Voilà que les malentendus, la suspicion et la mauvaise foi éclatent à nouveau et en un instant, tout le travail patient de plusieurs mois est détruit. Car Satan est bien décidé à ce que le flot lugubre et sombre de l'humanité continue sa course tourmentée jusqu'à la fin des temps. Il a eu la victoire sur Adam dans le jardin d'Éden et il compte l'avoir également sur l'âme de ses descendants. Tout être pensant s'est posé la question de l'existence du diable. Est-ce qu'il existe? Il n'y a pas de doute, car partout nous voyons sa puissance et son influence. La question n'est donc pas de savoir si Satan est, mais comment et pourquoi il existe. Nous savons par l'histoire d'Adam et d'Ève que le diable était déjà présent sur la terre avant que Dieu créât le premier homme. Le mal existait déjà, autrement Dieu n'aurait pas fait un arbre dont les fruits donnaient la connaissance du bien et du mal. Un tel arbre aurait été inutile et impensable si le mal n'avait pas existé et si l'homme n'avait pas eu besoin d'un être protégé. Ici, nous nous trouvons en face du plus grand de tous les mystères, du plus incompréhensible de tous les secrets, de la plus insoluble de toutes les questions. La Bible fait quelques allusions, il est vrai, à ce que la réponse pourrait être. Mais elle nous dit aussi que l'homme n'est pas censé connaître la réponse complète avant que les temps soient révolus et que Dieu se soit servi des œuvres du diable pour accomplir ses propres desseins. Avant la chute d'Adam, longtemps même avant son existence, il semble que l'univers de Dieu ait été divisé en sphères d'influence, chacune d'elles placée sous la surveillance d'un prince céleste responsable directement envers Dieu. L'apôtre Paul nous parle de trône, dignité, domination et autorité dans les lieux et dans les lieux célestes surtout et sur la terre. Donc la Bible mentionne fréquemment des anges et des archanges, qui montre ainsi qu'il y avait en effet une hiérarchie entre eux. Satan a été, comme vous le savez, un puissant prince céleste à qui la terre avait été confiée. Son nom, Lucifer, le porteur de lumière, montre qu'il a dû être très près de Dieu et près de l'ambition et l'orgueil surtout qui est entré dans son cœur et qu'il décida de ne plus être le prince bien-aimé de Dieu, mais tout simplement de se faire l'égal même de Dieu. C'est à ce moment-là que la rupture eut lieu dans l'univers. Et c'est à ce moment que le monde, qui avait été toute perfection et toute harmonie par la volonté divine, se partagea et qu'une des parties s'opposa à Dieu. Satan jeta donc un défi à Dieu et voulut établir sa propre autorité. Il abandonna sa position aux côtés de Dieu, descendit dans les lieux célestes inférieurs et proclama qu'il voulait être l'égal à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Du reste, il a été, vulgairement parlant, carrément foutu dehors du ciel. Dieu l'avait donc établi prince de ce monde et il l'a laissé en place bien que Christ, par sa mort, ait donné la preuve légale de sa déposition. Et depuis lors, le diable a toujours été en lutte avec Dieu sur la terre. Ce prince, qui commande à des multitudes d'anges, il faut bien le dire, a établi son royaume sur la terre. Et c'est à cause de sa puissance et de sa position ici-bas que la Bible a été écrite. Si Satan n'avait pas défié Dieu et tenté de rivaliser avec sa puissance et son autorité, l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden eût été très différente. Si Satan ne s'était pas opposé à Dieu, il n'aurait pas été nécessaire de donner à l'humanité les 10 commandements et Dieu n'aurait pas eu besoin de sacrifier son Fils bien-aimé sur la croix. Jésus-Christ et ses apôtres étaient donc conscients de l'existence du diable et saint Matthieu nous rapporte une conversation entre lui et Jésus. Le diable était également une réalité, croyez-moi, pour les pharisiens. Ah oui, il n'y avait pas de doute dans l'esprit de Jésus-Christ quant à l'existence de Satan, ni quant à la puissance qu'il exerce sur la terre. La force du diable est clairement démontrée dans ce passage de l'épître de Jude. Là, il est dit que l'archange Michel, c'était pas n'importe qui, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait carrément le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, donc il n'a pas osé l'insulter, comme parfois nous nous insultons vulgairement les uns les autres. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Si aujourd'hui on nie la personnalité du diable, c'est en grande partie à cause des caricatures qu'on en fit au Moyen Âge. Pour en avoir moins peur, on essaya d'en rire en le représentant comme une créature ridicule et grotesque avec des cornes et une longue queue. On lui mit même un trident dans les mains et on se dit « Pourquoi avoir peur d'une créature aussi ridicule ?» Or, la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que le diable est d'une intelligence supérieure, un esprit puissant et plein de ressources. Nous oublions qu'il était le plus grand et le plus élevé des anges de Dieu, donc un être sublime qui décida d'employer ses dons divins pour satisfaire ses propres intérêts au lieu de ceux de Dieu. Et oui, son raisonnement, il est brillant, croyez-moi. Ses plans sont ingénieux, sa logique sans défaut. Un de ses suppôts a même aidé Hitler pendant bien des années d'une façon surnaturelle. Donc, le puissant adversaire de Dieu n'est pas une créature maladroite avec des cornes et une queue. Il est un prince majestueux, d'une force et d'une ruse sans limite. Il peut mettre à profit chaque événement, faire tourner à son avantage toutes les situations. Le diable est à même de susciter le faux prophète annoncé par la Bible sur les épaves de l'incrédulité et du doute. Satan édifiera son chef-d'œuvre, c'est l'Antéchrist, le 666. Il créera une religion totalement sans rédempteur, avez-vous compris? Il construira une église sans Christ, il établira un culte sans aucune parole de Dieu. Et nous savons que l'Antéchrist apparaîtra et cherchera à séduire l'esprit et le cœur des hommes. L'heure va sonner, le décor se dresse, la confusion, la panique et la peur se répandent. Les signes du faux prophète se manifestent partout et beaucoup d'entre nous pourraient bien être témoins du moment terrible où commencera l'acte final de cette tragédie séculaire. Ce moment pourrait arriver à notre époque. Le rythme s'accélère, les événements se précipitent et de tous côtés, nous voyons les hommes prendre parti consciemment ou inconsciemment, soit par le diable, soit pour Dieu. Ce sera donc une bataille à mort, au vrai sens du mot, une bataille qui ne fera pas de quartier, sans indulgence ni exception. La phase humaine de cette bataille commença dans le jardin d'Éden quand le diable séduisit l'humanité, permettant à des multitudes d'opposer leur volonté à celle de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun savait donc très bien qu'il suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et cela continuera, ah oui, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'une ou l'autre de ces forces, la force du bien ou celle du mal, triomphe et place le vrai roi ou le faux roi sur le trône. À ce moment de l'histoire, deux puissantes trinités vont s'affronter. La trinité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la fausse trinité que Satan voudrait nous faire adorer, c'est-à-dire le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Cette dernière est décrite dans le livre de l'Apocalypse, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. À aucun moment de votre vie, consciente ou inconsciente, ces deux forces ne vous quittent et il n'y a pas d'instant où vous ne puissiez choisir délibérément de suivre l'une ou l'autre. Le diable est toujours à votre côté, vous tentant, vous flattant, vous menaçant ou vous cajolant. Et Jésus-Christ est toujours de l'autre côté, aimant et pardonnant, attendant que vous tourniez vers lui pour obtenir son aide, désirant vous donner sa force surnaturelle pour résister au malin. Et dans les pires moments de crainte et d'anxiété, quand vous vous sentez abandonné dans le tourbillon des événements que vous ne pouvez contrôler, et quand le désespoir et les déceptions vous submergent, alors le diable essaye tout simplement de vous attaquer par votre point faible et de vous pousser sur le chemin d'Adam que l'Adam a pris en son temps déjà. Souvenez-vous, et dans ces moments périlleux, rappelez-vous que Christ ne vous a pas abandonné, mais pas du tout. Il ne vous a pas laissé sans défense, et de même qu'il a triomphé dans son heure de tentation et d'épreuve, de même il a promis de vous donner aussi la victoire chaque jour sur le tentateur. Et rappelez-vous que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le livre qui nous parle sans cesse de l'amour de Dieu nous met aussi constamment en garde contre le diable qui voudrait se placer entre nous et Dieu, guettant toujours afin de séduire l'âme des hommes. Donc, soyons sobres et veillés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant où il dévorera. La Bible décrit le diable comme une personne qui a sous ses ordres une foule d'esprits démoniaques, lesquels tentent de dominer et de contrôler toutes les activités humaines. C'est lui toujours le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ne doutez pas un instant de l'existence de ce diable. Il est très personnel, très réel et extrêmement intelligent, n'oubliez jamais. Si vous avez encore des doutes, eh bien regardez la première page du journal d'aujourd'hui. Hein, pourquoi pas? Ouvrez votre poste radio ou de télévision et écoutez les nouvelles. Si vous avez besoin de preuves concrètes, alors là, vous en aurez autant que vous voulez. Croyez-vous, chers amis, que des hommes et des femmes sains d'esprit et capables de discernement agiraient de cette façon s'ils n'étaient pas sous l'empire, c'est-à-dire sous l'emprise carrément du diable? Oui, des cœurs remplis par l'amour et la bonté de Dieu accompliraient-ils les actes de violence et les crimes qui nous sont rapportés chaque jour? Je vous le demande. Des hommes instruits, intelligents et ayant de bonnes intentions se réunissant autour du tapis vert d'une conférence mondiale manifesterait-il une incompréhension aussi totale des besoins et de l'idéal des autres si leurs pensées n'étaient pas obscurcies et corrompues à dessein par l'ennemi? Et chaque fois que j'entends une personne soi-disant éclairée, oh là là, il y en a des éclairés qui contestent l'existence du diable, hein, chef d'une multitude d'esprits mauvais, de démons, eh bien je suis quand même triste et je prie pour de telles personnes. Chers amis, qui met, je vous le demande, qui met des entraves et tend des pièges aux hommes de bonne volonté? Qui donc s'empresse de semer l'ivraie dès que Dieu a semé le bon grain? Puisqu'ils ont décidé que ce n'est pas le diable, il faut les croire. Mais qui donc alors fait le travail que lui seul faisait jusqu'ici? Il n'est plus, nous dit-on, le lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais alors, chers amis, pourquoi ces querelles incessantes? Dans les familles, dans l'Église, dans les gouvernements et entre les États, de grâce que quelqu'un se présente et nous explique enfin comment tant de violence et tant de crainte se commettent chaque jour. Le diable est donc hors de cause, c'est ce que vous dites. On a donc voté qu'il n'existait pas. On a presque dit « Alléluia », on n'a pas osé tout de même. Mais nous, les gens simples, comme vous et moi, nous voudrions savoir qui donc a remplacé le diable. Veuillez me le dire. Qui, en effet, est responsable de l'infamie, de la terreur et de l'angoisse que nous voyons autour de nous? Comment pouvons-nous expliquer les souffrances que nous endurons tous si le mal n'est pas une force agissante? La culture moderne a-t-elle réussi, par ses prétendues découvertes scientifiques, à nous faire perdre la notion et la puissance surnaturelle de Satan? Comment ceux qui nient l'existence du diable et de ses suppôts explique-t-il la vitesse à laquelle se répand le mal? Comment explique-t-il les innombrables écueils placés sur le chemin des justes? Comment peuvent-ils oublier le fait que les destructions et les désastres ne sont qu'une affaire de seconde, alors que les constructions et les réhabilitations sont souvent mortellement longues? Proférer un mensonge ou une calomnie, et instantanément, comme par magie, ces paroles se répandront absolument partout. Mais dites une vérité, aha, faites un acte généreux et honnête, et aussitôt, des forces invisibles essayeront de cacher ce faible rayon de lumière et d'espoir. Ce n'est pas rare qu'on construit des temples, même pour prêcher la parole de Satan. Et pourtant, sa parole se trouve partout et se traduit souvent en actes désespérés. Ah oui, si par exemple aucune force invisible ne travaille à corrompre le cœur des hommes et à fausser leurs pensées, pourquoi les hommes prêtent-ils une oreille si favorable à ce qui est méprisable, vulgaire et vil, alors qu'ils font la sourde oreille à ce qui est bon, propre et pur? Un homme choisirait-il un fruit véreux et pourri, hein, plutôt qu'un fruit mûr et délicieux, s'il n'était pas poussé dans ce choix par une puissance sinistre? C'est pourquoi, là, hein, ce que nous faisons tous, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Nous laissons constamment de côté des expériences riches, belles et édifiantes pour en choisir d'autres qui sont douteuses, mesquines et dégradantes. Ce sont là, croyez-moi, les œuvres du diable, tout simplement, et elles foisonnent absolument partout. Voyez-vous, ce qui se passe sur la terre n'est que le reflet des luttes gigantesques entre le bien et le mal qui ont lieu dans le monde invisible. Nous, nous plaisons à penser que notre terre est le centre de l'univers et nous attachons trop d'importance aux événements terrestres. La folie de notre orgueil est telle que nous ne reconnaissons et ne prenons en considération que ce qui est apparent à l'œil humain. Mais une lutte infiniment plus formidable se livre dans le monde que nous ne voyons pas. Voyez-vous, lorsque l'image sur l'écran de la télévision n'est pas au point, nous n'en accusons pas la station émettrice. Et lorsque nous ne pouvons obtenir le programme que nous désirons ou que l'image devient indistincte, nous ne maudissons pas les savants qui ont découvert la télévision. Nous reconnaissons que la faute vient de l'appareil que nous utilisons. Nous ne disons pas que la télévision est une faillite misérable parce que notre antenne est mal installée ou parce que nous habitons dans un quartier où la réception de la télévision est faible, mais qu'une tragédie ou que la maladie nous frappe, que nous souffrions les conséquences de nos propres péchés, alors nous en accusons immédiatement Dieu. Ah, ça c'est simple! On accuse toujours Dieu quand ça va pas. Nous sommes donc des passions et nous sommes incompréhensibles à la place d'être compréhensifs. Quand notre appareil de télévision ne nous donne pas ce que nous désirons, mais nous sommes prompts toujours à injurier notre Dieu, notre Sauveur même, lorsque nous voyons une image déformée de son univers. Là, c'est curieux, le monde se tait. Quelqu'un obtient-il la promotion que nous désirons pour nous-mêmes, un autre que nous considérions comme moins capable que nous-mêmes, réussit-il là où nous avons échoué? Et nous accusons tout simplement Dieu d'injustice. Si ça va pas comme nous voulons, c'est Dieu la faute. Nous nous demandons comment il permet de telles inégalités. Hein? Nous perdons de vue le fait que Dieu, comme un chef de stations émettrices de télévision nous envoient continuellement une image parfaite de l'amour et de la justice, et que si la réception est défectueuse, eh bien nous en sommes absolument responsables, me semble-t-il. Voyez-vous, le mal et la déformation en notre nature nous empêchent de voir la parfaite création de Dieu et d'en jouir. C'est notre propre péché qui brouille l'image, qui nous empêche d'être des enfants de Dieu. L'apôtre Paul parle pour nous quand il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Saint Paul reconnaît l'ennemi terrible, l'adversaire puissant de toute l'humanité, et il s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'intelligence esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc pour lui, il était évident que deux forces, des forces adverses, nous dominent et il se sentait déchiré entre elles. La force du bien poussait son esprit et son cœur vers Dieu, alléluia, alors que celle du mal essayait d'entraîner son corps dans la mort et la destruction, malheureusement. Et vous, chers amis, êtes-vous attirés par ces deux mêmes forces, la vie et la mort? Si vous choisissez Dieu, alors c'est la vie. Mais si vous choisissez Satan, ça sera pas la vie, mais ça sera la mort, que vous le croyez ou pas. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 3, « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Il n'y a qu'un pas. On a dit que toute la vie n'était qu'une préparation à la mort. Le psalmiste nous dit « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ?» Nous croyons vivre dans une époque de pensée libre et d'expérience définitive. Nous avons cherché à changer le monde et les lois qui le gouvernent par la connaissance, les sciences, les inventions, les découvertes, la philosophie et la pensée matérialiste. Nous avons essayé d'introniser les faux dieux de l'argent, de la gloire et de l'intelligence humaine, mais quoi que nous essayions, la fin est toujours la même. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Au cœur de la vie, nous voyons la mort de tous les côtés. La tristesse de l'ambulance, les chapelles ardentes, les cimetières devant lesquels nous passons, le corbillard se frayant un chemin à travers la circulation, tout nous rappelle que le lugubre moissonneur peut nous faucher à chaque instant et sans même nous prévenir. Chaque année, quelques millions de personnes meurent dans leur automobile, sans penser que c'est leur dernier recours. Malgré l'augmentation des mesures de sécurité, 100 000 autres sont tués chez eux par des accidents alors que l'idée de la mort est loin de leur esprit. Car, voyez-vous, la mort, elle fait une chasse impitoyable à l'humanité, et bien que la science médicale et la technique moderne lui livrent une guerre constante, en fin de compte, c'est la mort qui a la victoire. Grâce à la longue lutte scientifique, nous avons l'avantage maintenant de vivre un peu plus longtemps, mais personne va prétendre, à moins d'être un peu bizarre, qu'avec toutes les attaques, avec toutes les catastrophes incroyables que la Bible, du reste, a prédit il y a longtemps, et que nous voyons aujourd'hui toutes ces catastrophes se réaliser, Eh bien, je crois que la longévité de la vie ne va pas durer encore très longtemps, à moins d'être aveugle. Mais il y en a qui sont aveugles. Les maladies de cœur fauchent encore beaucoup de nos concitoyens dans leur jeunesse. Le cancer attaque de plus en plus des centaines de milliers de personnes. Les maladies du sang, la poliomyélite, la pneumonie réclament ainsi aussi leur part. Bien que les recherches médicales aient grandement diminué, eh bien le nombre annuel de leurs victimes augmente. Mais en dépit des statistiques faussement optimistes, hein, parce que c'est mensonger, eh bien les crimes, les suicides et autres formes de mort violente, le fait inévitable de la mort, elle augmente chaque année et elle est toujours notre ultime expérience sur la terre, me semble-t-il. Dès qu'un enfant naît, que croyez-vous que ce qui se passe ? La lutte contre la mort s'engage. La mère consacre des années d'attention à la protection de la vie de son enfant. Elle surveille la nourriture, les vêtements, l'entourage, les analyses et inoculations médicales. Mais malgré ces soins attentifs, que croyez-vous ? Réfléchissons ensemble. Eh bien, l'enfant a déjà commencé à mourir. Vous allez dire que je suis un menteur. Eh bien, demandez les spécialistes qu'est-ce qu'ils en pensent. Des signes tangibles de faiblesse apparaîtront avant que beaucoup d'années se soient écoulées. Le dentiste réparera les caries de nos dents. Des lunettes, comme pour moi, nous seront nécessaires pour remédier à l'affaiblissement de notre vue. Notre peau se ridera avec les années comme la mienne. Nos épaules se courberont et nos pas deviendront plus lents et moins sûrs. La fragilité de nos os augmentera tandis que notre énergie diminuera et presque sans nous en rendre compte, nous aurons commencé à mourir. Que nous le voulons ou pas. Vous pouvez aller faire tendre la peau du visage, du front, du menton, du cou, tout ce que vous voulez, les seins. Eh bien, à la fin, vous allez quand même mourir. L'assurance maladie et l'hospitalisation nous adouciront peut-être le choc. Nous contracterons, certains d'entre nous qui ont les moyens, une assurance sur la vie pour couvrir nos dernières dépenses de nos dernières obligations et nous constaterons subitement que notre vie est semblable à une bataille sans fin contre la mort. Nous sommes engagés dans une course et tout ce que nous pouvons espérer, c'est de gagner un peu de temps, de déjouer notre adversaire comme nous le pouvons, mais nous savons très bien qu'à la fin, la mort gagnera immanquablement, que vous le voulez ou pas, que vous soyez milliardaire ou pas. N'est-il pas étrange que nous dépensions tant d'énergie pour apporter la vie dans le monde et que nous tournions résolument le dos au fait tout aussi important qu'il faut le quitter un jour ou l'autre? Aujourd'hui, notre planète est peuplée par quelques 4 milliards d'individus. Presque tous seront morts dans 100 ans. Eh oui, et leurs corps seront insensibles. Mais qu'en sera-t-il de leur âme? Là, c'est la question. La partie essentielle et éternelle de la vie, c'est l'âme et votre esprit. Et voilà le mystère. Quelle est cette chose qui quitte l'homme quand il meurt et où va-t-elle? Chaque génération a donc connu des hommes qui, dans leur haine contre Dieu, ont essayé de ridiculiser et d'injurier l'Église, la Bible et Jésus-Christ. Sans apporter aucune preuve, ils se récrient contre la voix de Dieu. L'histoire nous montre un Voltaire et beaucoup d'autres philosophes qui, par leurs arguments, s'efforcent de détruire la crainte de la mort. Christ a donné un sens nouveau à la mort. L'homme l'a toujours considéré comme un ennemi, mais Jésus-Christ affirme qu'il l'a vaincu et lui a enlevé son aiguillon. Quand il suppliait les hommes de se préparer à la mort inéluctable, Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. « Ne vous préoccupez pas, disait le Seigneur, de la mort du corps, mais plutôt de la mort éternelle de l'âme. » La Bible indique qu'il y a en réalité deux morts. L'une, la mort physique, et l'autre, la mort éternelle. Jésus-Christ nous conseille de craindre la seconde mort beaucoup plus que la première. Il décrit la seconde mort comme l'enfer, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. La mort du corps n'est rien en comparaison du bannissement conscient sans fin d'une âme loin de Dieu pour l'éternité. La Bible enseigne que vous avez une âme immortelle et votre âme est éternelle et vivra pour toujours. En d'autres termes, votre véritable, on peut dire véritable vous-même, qui pense, qui sent, qui rêve et désire, donc le moi, la personnalité, ne mourra jamais. Et la Bible enseigne que votre âme vivra dans un de ces deux endroits. C'est-à-dire, quels sont ces deux endroits? Voulez-vous le savoir? C'est le ciel ou l'enfer. C'est pas la même chose. Le ciel ou l'enfer, ça, croyez-moi, c'est pas pareil. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, ça veut dire pas né de nouveau, parce que simplement aller à l'église à Noël et à Pâques, ça, c'est pas chrétien. Alors la Bible déclare que votre âme ira immédiatement après votre mort dans un endroit que Jésus-Christ appelle le Hadès, où vous attendrez le jugement de Dieu. Les uns enseignent que tout le monde sera sauvé, comme c'est merveilleux, que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il n'enverra personne en enfer, jamais. Ils croient que les morts, eh bien, sont tout simplement au ciel, et que les mots éternels et immortels ne signifient pas du tout pour toujours. C'est peut-être que des vacances. Cependant, le mot qui parle du bannissement éternel loin de Dieu est aussi employé pour l'éternité du ciel. C'est curieux, non? Quelqu'un a dit que l'équité, elle exige qu'on qualifie la joie des justes et la punition des méchants de la même manière. Ça, c'est la justice, car c'est le même mot grec qui exprime la même durée. D'autres enseignent qu'après la mort, ceux qui ont refusé d'accepter la rédemption de Dieu, sont anéantis et cessent tout simplement d'exister. En recherchant dans la Bible, du commencement à la fin, on n'a jamais trouvé un seul passage qui soutient cette thèse-là. La Bible affirme que, sauvé ou non, il y a une existence consciente et éternelle de l'âme et de la personnalité. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas inventer autre chose. Ce serait incorrect. Donc, d'autres, enfin, ils nous disent qu'après la mort, il y a encore une possibilité de salut. Ah, ça c'est formidable. Et que Dieu accordera encore une seconde chance, pourquoi pas une troisième. Si c'était vrai, la Bible y ferait allusion, mais au contraire, ces avertissements sont nombreux. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. D'innombrables passages de l'Écriture sainte prouvent que la Bible enseigne qu'il y a véritablement un enfer pour tout homme qui volontairement et consciemment rejette Christ comme Seigneur et Sauveur. Je souffre cruellement dans cette flamme. nous est-il dit dans Saint Luc chapitre 16, verset 24 ? Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu et la géhenne. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Mais j'attends quelqu'un dire, « Je ne crois pas à l'enfer. » Ma religion est celle du sermon sur la montagne. C'est l'amour, c'est la grâce, c'est le pardon. Ça, c'est Jésus-Christ. Le reste, c'est faux, c'est un mensonge. Je ne veux pas écouter cela. Bon, pourquoi pas ? Alors, écoutons un passage du sermon sur la montagne, puisqu'ils en parlent. Là, il est dit, il me semble, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de ses membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de ses membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Donc, il me semble que c'est clair. Nous avons ici un enseignement précis de Jésus-Christ concernant l'enfer. Il affirme sa réalité. Jésus-Christ raconte des paraboles et donne des illustrations sur tout ce sujet. Et il met continuellement en garde les hommes et les femmes contre la folie d'une vie de péché et d'hypocrisie, tandis qu'ils sont sur la terre. Il n'y a pas de doute que les méchants souffrent un certain enfer ici sur la terre. Et ça, on le voit tous les jours autour de nous. Et sachez que votre péché vous atteindra tôt ou tard. Et la Bible dit encore, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais d'autre part, nous voyons autour de nous des méchants qui semblent prospérer, tandis que des justes souffrent. La Bible annonce qu'un jour, tout cela sera compensé selon la justice. Un Dieu d'amour peut-il envoyer un homme en enfer ? Oui. Cependant, il ne l'y envoie pas volontiers, pas du tout, avec plaisir. Ne croyez pas cela et ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. L'homme se condamne lui-même en refusant tout simplement le moyen du salut de Dieu. Par amour et par grâce, Dieu offre aux hommes un moyen d'échapper, un chemin de salut, une espérance et un avant-goût de choses meilleures. L'homme, dans son aveuglement, dans sa stupidité, dans son obstination, dans sa vanité de son amour des plaisirs coupables, refuse le moyen simple que Dieu lui offre pour éviter l'angoisse de bannissement éternel. Supposez que vous soyez malade et que vous appeliez un médecin qui vous prescrive une ordonnance. Mais après avoir réfléchi, vous décidez d'ignorer son conseil et de refuser son remède. Quand il revient quelques jours plus tard, est-il responsable de l'aggravation de votre état ? Il vous avait donc donné l'ordonnance, il vous avait prescrit le bon remède, mais vous l'avez carrément refusé. De même, Dieu a prescrit le remède pour les maladies de l'humanité. Le remède, c'est la foi et l'abandon de sa vie à Jésus-Christ. Le remède, c'est donc de naître de nouveau. C'est la conversion, c'est se donner au Seigneur. Si délibérément nous le refusons, nous devons en subir évidemment les conséquences et nous ne pouvons blâmer Dieu. Est-ce la faute de Dieu si nous refusons sa main tendue? Certains demandent comment est l'enfer. Quatre termes correspondent à celui d'enfer dans notre Bible. Nous allons essayer de les voir ensemble, bien que ce n'est pas quelque chose qui m'amuse, mais quand même, vous voulez savoir. Bon, premièrement, le mot hébreu « Sheol », traduit généralement par le sépulcre ou séjour des morts dans l'Ancien Testament. Littéralement, il est employé pour exprimer la douleur et la destruction. Ce ne sont donc pas des vacances. Deuxièmement, le mot grec « Hadès », qui a le même sens que « Sheol » et qui apparaît 10 fois dans le Nouveau Testament, toujours en rapport avec le châtiment et les tourments. Troisièmement, le mot grec « Tartaros », employé seulement dans 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, est traduit dans la version seconde par le mot « dans l'abîme », « jeté dans l'abîme ». Ce passage rapporte que les anges qui ont péché ont été précipités dans l'abîme. Tartaros signifie une tour ou une prison remplie d'épaisses ténèbres. Et quatrièmement, le mot grec « géhenna », évidemment, moi je lis cela des fois à l'allemande, puisque je suis de langue allemande, la « géhenna », peut-être en français la « géhenna », qui apparaît 11 fois dans le Nouveau Testament. Il est tiré du nom de la vallée de Hinnom, près de Jérusalem, où l'on avait autrefois brûlé des débris et des ordures. Ce terme est employé principalement dans les discours de Jésus-Christ. D'aucuns, ou certains, demandent « La Bible dit-elle qu'il y a vraiment, littéralement, du feu en enfer ?» Il est vrai que la Bible emploie plusieurs fois le mot « feu » au figuré. Cependant, il existe tout de même un feu qui brûle sans même se consumer. Si on se penche d'une façon sérieuse sur la Bible, par exemple, lorsque Moïse a aperçu le buisson ardent, il a été très étonné de voir qu'il ne se consumait pas. Les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois pire que jamais, mais ils ne furent pas consumés miraculeusement, parce que tout cela était voulu de Dieu par miracle. Autrement, ils auraient été rôtis en 2-3 secondes. De fait, pas un cheveu de leur tête n'a été brûlé. Alors, l'enfer, dans son essence, il me semble que c'est surtout la séparation d'avec Dieu. C'est ça qu'il vous faut retenir. L'enfer, c'est la séparation totale pour l'éternité avec Dieu. C'est la seconde mort. Elle est décrite comme le bannissement éternel et conscient hors de la présence de tout ce qui est lumière, joie, bonté, justice et bonheur. La Bible contient, évidemment, de nombreuses et terrifiantes descriptions de l'affreuse condition dans laquelle l'âme se trouve une minute déjà après la mort. Il est étrange de constater que les hommes se préparent à tout, absolument à n'importe quoi, sauf à la mort. Nous nous préparons pour notre carrière, nous nous préparons au mariage ou pour notre vieillesse. Nous nous préparons pour tout sauf pour le moment où nous allons mourir. Même si nous devons déménager 25 fois, hein? Mais déménager 25 fois, c'est moins pire que la mort en enfer. Et pourtant, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, la mort est un événement qui ne semble pas naturel à l'homme quand il s'agit de lui-même, mais tout naturel quand il s'agit des autres. Ah, ça c'est autre chose. C'est pour les autres. Toujours. Hein? Il a attrapé un cancer terrible. Ah ben ça c'est pour les autres. Moi, je suis végétalien. Je mange que des légumes et des fruits. Alors je ne peux pas avoir de cancer. Curieusement, j'ai connu une personne qui mangeait comme ça. À 35 ans, elle est morte tout simplement parce qu'elle avait maigri à un tel point qu'elle s'était totalement déminéralisée. Enfin, c'est les docteurs qui ont constaté cela après avoir donc essayé de comprendre. Voyez-vous, chers amis, la mort est un événement, je le répète, qui ne semble pas naturel à l'homme quand il s'agit de lui-même, on l'a dit, mais qui semble tout naturel pour les autres. Donc la mort ramène tous les hommes au même niveau. Elle dépouille le riche de ses millions et de ses milliards et le pauvre de ses guenilles. Elle calme l'avarice et éteint le feu des passions. Tous voudraient ignorer la mort, mais tous doivent l'affronter, qu'ils le veuillent ou pas. Le prince et le paysan, l'insensé et le philosophe, le meurtrier et le saint. La mort ne connaît ni limite d'âge, ni favoritisme. Tous les hommes la craignent. Il est donc facile de penser que les autres ont rendez-vous avec la mort, mais il est difficile de nous rappeler que nous devons nous aussi répondre à cet appel, que nous voyons des soldats partir au front, que nous lisons la condamnation d'un prisonnier ou que nous visitons un ami mortellement frappé, nous sommes conscients qu'une certaine solennité règne autour de ces personnes. La mort est fixée pour tous et la question de sa venue n'est qu'une affaire de temps. Il y a d'autres rendez-vous dans la vie, les rendez-vous d'affaires ou de plaisir que nous pouvons sans grand danger négliger ou renvoyer. Mais il y a un rendez-vous qu'un homme, une femme ne peut ignorer, qu'aucun homme ou femme ne peut renvoyer. Il rencontre la mort une fois seulement, mais il doit la rencontrer tôt ou tard. Si la mort physique était la seule conséquence d'une vie vécue loin de Dieu, nous n'aurions pas tant à craindre. Mais la Bible dit qu'il y a une seconde mort, qui est l'éloignement éternel de Dieu. Ça, c'est tout autre chose. Cependant, il y a un côté plus lumineux. Comme la Bible annonce l'enfer pour le pécheur, elle promet aussi le ciel, oh oui, le ciel, à tous ceux qui sont justifiés. Le sujet du ciel est plus facile à accepter que celui de l'enfer. Et pourtant, la Bible parle des deux. Si vous déménagez, vous êtes ou vous désirez tout savoir sur les voisins de votre nouveau quartier. Si vous changez de localité, vous désirez tout connaître de cette nouvelle ville, ses tramways, ses industries, ses parcs et ses écoles. Comme nous avons passé l'éternité, nous allons surtout passer l'éternité un jour quelque part, qu'on le veuille ou pas. Ça, on ne peut pas échapper. Eh bien, nous devrions savoir quelque chose de cet endroit, me semble-t-il, non? Les renseignements concernant le ciel se trouvent dans la Bible. Il est donc normal que nous pensions et que nous en parlions. Quand on évoque le ciel, la terre devient triste et sombre en comparaison. Nos soucis et nos problèmes nous paraissent tellement moins importants lorsque nous avons une vision assurée de l'avenir. En un certain sens, le chrétien jouit du ciel déjà sur la terre il a la paix de l'âme. Ah oui, la paix de la conscience et la paix avec Dieu. Au milieu des épreuves et des difficultés, il peut sourire. Il y a de l'élan dans sa marche et de la joie dans son âme et un sourire sur son visage, même que j'ai des fois très mal au dos. Mais la Bible promet aussi aux chrétiens un ciel pour la vie future. Quelqu'un a demandé un jour à une personne qui avait alors 84 ans, exactement comme moi maintenant, comment il se sentait. Il a répondu « Tout à fait bien, oui, mais le corps dans lequel je vis ne va pas trop bien, même si le corps dans lequel nous vivons est malade et faible. » Nous pouvons réellement nous sentir forts et sûrs si nous sommes chrétiens. Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a un ciel et un espoir. Ça change tout, l'espoir. Beaucoup de passages pourraient être cités, mais le plus, on peut dire le plus décryptif de ces passages, c'est certainement celui de Saint Jean, chapitre 14, verset 2, où il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, que vous vous appelez Soleil, ou Gabriel, ou Monique, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Saint Paul croyait si sûrement au ciel qu'il pouvait dire « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » L'apôtre Paul dit sans cesse « Nous savons, nous sommes certains, nous sommes toujours certains. » La Bible nous dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Beaucoup demandent « Croyez-vous que le ciel soit littéralement un endroit ?» Oui, ah oui, car Jésus-Christ a dit « Je vais vous préparer une place ». La Bible dit qu'Enoch et Élie montèrent dans un corps, au sens littéral, vers un endroit aussi réel que Paris, Londres ou Alger. Où est le ciel ? Demande-t-on encore. Alors la Bible ne nous dit pas où se trouve le ciel exactement. Et certains ont cru pouvoir affirmer, en rapprochant certains passages de la Bible, que le ciel se trouve au nord. Ils citent le psaume 48, verset 3. « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. » Il est intéressant de noter que Dieu donna à Moïse l'ordre, quel ordre ? L'ordre de répandre le sang du sacrifice au nord de l'autel, en direction de Dieu. Le pôle magnétique, me semble-t-il, paraît-il, est au nord. La cité céleste, donc, est au nord. Mais qu'importe où est le ciel, il est là où est le Christ, évidemment. La Bible dit que ce pays sera magnifique. Elle le décrit comme la cité de Dieu, une ville, un pays merveilleux, un héritage et une gloire. Nous, nous reconnaîtrons au ciel, bien sûr. Nous allons nous reconnaître au ciel. Aucun problème. La Bible dit à plusieurs reprises que ce sera une merveilleuse réunion avec ceux qui nous ont dévancés. D'autres disent, croyez-vous que les enfants seront sauvés ? Alors, la Bible affirme que Dieu ne rendra pas un enfant responsable de ses péchés avant qu'il n'ait atteint l'âge de raison. Jusque-là, ses péchés sont couverts par l'expiation. La Bible nous dit encore qu'au ciel, nous aurons une grande compréhension et une grande connaissance des choses que nous n'avons jamais apprises ici-bas. Thomas Edison disait une fois « Je ne connais pas la millionième partie de n'importe quoi ». Pourtant, il connaissait beaucoup de choses. De nombreux mystères, les chagrins, les épreuves, les déceptions, les tragédies et le silence de Dieu au milieu de la souffrance nous seront un jour bientôt expliqués là-haut. Mais que ferons-nous au ciel ? Demandent certaines personnes. Serons-nous simplement au repos, jouissant des plaisirs de la vie, entre deux palmiers, un hamac, et nous balançant tranquillement pendant l'éternité ? Non, pas du tout. La Bible dit que nous servirons Dieu. Il y aura du travail à accomplir pour Dieu. Nous passerons beaucoup de temps à le louer. La Bible dit qu'il y aura plus d'anathème, plus du tout. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. Du reste, bien que j'ai bientôt 84 ans, je fais ce travail tous les jours. Je me donne de la peine, croyez-moi, ça me tombe pas tout cuit dans la bouche. Je prie beaucoup et je dis et je demande humblement au Seigneur Jésus-Christ qu'il permette que le Saint-Esprit parle à travers ma bouche. Parce que moi, je pourrais pas le faire. Je suis de langue allemande. J'ai jamais appris le français, hein, que par l'oreille. Alors, évidemment, ça va pas très fort, mais je le fais. Et je demande même que le Seigneur me permette que je puisse rejoindre ma sainte épouse et pouvoir faire un travail avec elle pour lui, un travail d'honnêteté, de fidélité surtout, de grande fidélité. Hein? Être fidèle, toujours être droit, être comme les anges, peut-être même mieux, qui va savoir. Mais en tout cas, je demande qu'il me donne l'autorité de faire un travail, de pouvoir être à son service, de pouvoir vraiment le servir, jour et nuit. Ça, c'est mon désir. Du reste, si je peux, je ferai le travail que je fais actuellement, de parler ces études, hein, il faut quand même les préparer, et de les parler jusqu'à mon dernier souffle, s'il le permet. Hein? Alors, merci Seigneur, allons de l'avant, avec courage, et je ne me plains pas, je n'ai pas du tout envie d'aller à la Côte d'Azur, d'aller me promener dans les musées, comme beaucoup de chrétiens me disent, il faut profiter de voir le monde, les cultures. Ça ne m'intéresse pas, je verrai toutes ces cultures un jour au ciel, croyez-moi. Donc, je vais répéter avant de terminer par la prière, tout simplement ceci. Oui, que ferons-nous au ciel ? Que ferons-nous ? Serons-nous simplement au repos, jouissant des plaisirs de la vie ? Je ne crois pas. La Bible dit que nous servirons Dieu. Il y aura du travail à accomplir pour Dieu. Alléluia. Nous passerons beaucoup de temps à le louer. Et la Bible dit qu'il y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. Ce sera donc un temps de joie, de service, de rire aussi, de chant et de louange à Dieu. Enfin, la Bible enseigne qu'être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alléluia. Et au moment où un chrétien meurt, il va immédiatement dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et là, son âme attend la résurrection et par laquelle elle sera à nouveau unie à son corps. Bien des gens demandent « Comment un corps décomposé pourrait-il ressusciter ?» Une bonne question. Les savants ont déjà prouvé qu'aucun atome ne se perd sur la terre. Dieu qui a fait le corps lors de la création, il peut bien faire encore beaucoup mieux ce que les savants font. Il peut en réunir à nouveau tous les atomes et le corps ressuscité rejoindra l'âme. Mais ce nouveau corps sera un corps glorieux, ça change tout. Il n'y aura pas le péché en lui, semblable à celui de Christ. Ce sera un corps éternel qui ne connaîtra plus les larmes, les chagrins, les tragédies, les maladies, la souffrance et la mort. Il n'y aura plus mal au dos, comme je l'ai souvent, à cause que j'ai le canal lombaire coincé. Ça fait pas beaucoup de bien. Nous avons donc ici-bas, chers amis, la description de deux mondes éternels. Et chaque fils d'Adam ira dans l'un ou dans l'autre. Beaucoup de mystères entourent tout cela. Oui, bien sûr, mais il y a suffisamment d'allusions et de références dans la Bible pour nous montrer que l'un sera un monde de tourments et de souffrance, et l'autre, un monde de lumière et de gloire. Là, on peut aussi dire gloire à Dieu. Chers amis, nous allons tout simplement terminer par la prière, si vous le voulez bien,